1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Are you drinking? No.
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un intrus dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule.
Bonjour à tous, je suis PFM 99.9 en compagnie de Décadré avec Benjamin, Antoine et Monel Ange.
Écoute, ça va arriver les voisins.
Eh ouais, ça va réveiller les voisins. Vous êtes bien sur l'émission des Décadrés 99.9 PFM. Bonjour Ange, comment vas-tu?
Pourquoi tu dis Ange en regardant Ben?
Pour déçu. Voir si t'allais réagir.
Non mais j'ai réagi. Okay. Je suis déçu, mais je vais bien.
Ah bah il va bien.
Oui.
Comment vas-tu, Benjamin?
Ça va très bien.
Non, alors pour les auditeurs, je viens de refaire la même chose. J'ai regardé Ange au lieu de Benjamin. Enfin, c'est très très drôle.
Ah,
voilà.
Oui.
Voilà. Donc nouvelle émission. La semaine dernière, c'était le grand retour des Décadrés. On était en vacances. Non, on n'était pas en vacances. Mais c'était notre grand retour. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire plaisir, mes amis. On a décidé de vous parler de deux films.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Voilà. On parle de séries.
Et d'événements et de séries. Alors, comment?
Et de comics,
exactement.
Et de jeux vidéo.
La liste est longue, on pourrait faire ça pendant des heures. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer avec la chronique de Benjamin qui va nous parler d'un film qui est sorti récemment, je crois.
Oui, donc mon titre sur Triple X3, entre parenthèses, Le retour de Xander Cage. Premier trauma cinématographique de l'année 2017. Premier trauma, oui, car à la sortie de la salle, moi, ma chère et tendre, ainsi que Guillaume Méral et Adrien Joly de Popcorn Reborn, étions complètement déboussolés. Que venons-nous de regarder? Quelles étaient ces images? Nous étions traumatisés.
C'est marrant, j'ai la même musique dans ma tête quand je regarde quand je regarde 30 millions d'amis, c'est très très bizarre, tu vois. C'est...
Et puis très vite, on a parlé. Parlé pour guérir. Et cette chronique marquera probablement ma guérison complète. Guérison que j'aurais souhaité après avoir vu Suicide Squad. Bref, mes amis, l'heure est grave. Triple X, le retour de Xander Cage, ou nommé dans certains pays Triple X Reactivated, a envahi nos salles le 18 janvier 2017. Envahi car invasion, oui, c'en est une. Et une sacrée d'invasion que celle de l'ego de Vin Diesel. Vin Diesel, le super bof au crâne rasé, qu'on savait être un génial autosatisfait, un égocentrique insatiable, et admirateur des plus grandes éthiques bof occidentales, et même de l'univers. Il est de retour. Car le retour de Xander Cage cache, ou pas vraiment, celui de Vin Diesel le Grand, premier du titre.
Alors franchement, c'est la meilleure intro que t'aies faite en 33 émissions.
C'est possible. Alors le film démarre avec Xander sur une tour de communication, volant un composant. Le mec est menacé par trois policiers ou responsables de la sécurité civile armés. Xander est trop fort. Il saute de la tour à ski pour atterrir sur la terre. Les feuillages et le reste, et après on va skier. Oui, alors rassurez-vous, ses genoux, ses tibias, tout va pour le mieux. Parce que, bah, tu vois, Xander, il continue, puis après, il continue sur la route en skateboard. Et parce qu'il y a une certaine logique, tu vois. Et dans les plans larges, où la cascade règne à tant soit peu, bah, Xander, il a le visage assombri.
Mais vous n'êtes pas Benjamin. Kevin, lâche le micro.
Assombri, caché ou flouté. Bah ouais, parce que on pourrait dire par la vitesse. Bah non, parce que en fait, c'est à cause de Vin Diesel, il est pas foutu d'assurer une cascade.
Je suis un peu déçu par la chute là.
Ouais.
Je m'attendais mieux.
Alors Vin Zengder salue les gens et sourit avec ses dents bien soignées devant les gens du peuple, les pauvres, ceux qui l'admirent et aussi l'attendent. Oui, car Vin est attendu. Pourquoi court-il? Il sort l'élément technologique, le bidouille, et bim. Savez-vous ce que Zengder a apporté aux pauvres gens? Eh ben, je vais vous le dire.
De l'eau.
Eh bien, du football, bien sûr.
Oh, bah, ouais. On a tous besoin de football.
Parce que les gens dans les pays sous-développés, ils sont fédérés par le football et rien d'autre. Eh ben oui. Et puis Xander dit à un gosse que le plus important est dans son cœur. Bref, une leçon d'humanité déclarée par Vin. Vin qui plus tard à Londres réclamera sa fourrure, son culte manteau de fourrure. On croirait rêver, mais non. Puis il va devoir, et je mets le mot devoir entre guillemets, et je fais les guillemets, coucher avec 8 femmes en même temps pour obtenir une information secrète. Vin, en gentleman, dira qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire pour son pays. Entre chaise, entre chacune.
Je sais pas si c'est là l'article ou si c'est l'accent que tu prends en le lisant.
Entre chacune.
Complètement blasé. T'as commencé par le pur Kevin prototype et puis t'es passé au mec complètement.
Entre chacune des ignobles scènes d'action où Vin ne se dévoile que dans des plans rapprochés et lents. Une leçon d'humanité ou de vie.
On
comme
Olivier
avec
de
le gosse. Alors, attention, la leçon c'est tu sais, je comprends ce que tu vis, je connais ça. Mais ferme ta gueule, Vin. Oh, pardon, Xander. Non, Vin. Oh, je suis perdu. Arrête de te mettre en avant, Vin.
On dirait Redouane Arjen et l'Olivier de Benoît.
Arrête de te mettre en avant. Oui, j'ai oublié de le dire. Tous les seconds rôles n'existent que pour mettre en avant Vin, Xander. Sa puissance, son courage, son sexe à pile de ringard. Ou à quel point on a besoin de Xander. Eh oui. Car tout le film fait la promotion de ce personnage et essaye de montrer à quel point le monde a besoin d'un bof comme Vin Xander Diesel.
Moi je suis d'accord avec ça parce qu'on a tous besoin d'un mec qui fait de la moto dans l'eau.
Ouais, non, mais ça c'est.
Ah, oh, ça ouais. Bon, on va pas en parler, mais on va éviter.
D'accord.
Aussi, Vin adore être filmé de telle manière qu'on remarque bien sa brochette de muscles qu'il peine à mouvoir, même s'il rêverait de les embrasser à l'écran. Ce qu'il fait hors des plateaux, si l'on écoute Monsieur Kassovitz, réalisateur des Rivières Pourpres. Ou notamment de Babylone AD, que Vin a adoré sa beauté. Vin, ce demi-dieu qui serait, je cite, une baudruche pleine de vin. Vin Diesel regarde ses films et se trouve extrêmement bon tireur d'élite, extrêmement bon parachutiste, et il y croit. Il pense que c'est lui qui conduit les voitures dans les cascades de ses films. Il se regarde sur l'écran et il s'embrasse les biceps. Fin de citation. Ah, ce Vin, ce roi du premier degré dégénéré. Qu'est-ce qu'on l'aime. Revenons sur ce fameux héros dont le monde a besoin. Qui tue et désingue les méchants à l'ancienne. Alors, attention, les méchants augmentés de quelques armes technologiques, mais infoutus de se planquer derrière un mur plutôt que devant une fenêtre sale. Ah, ces méchants qui sont.
En fait, c'est un hot shot 3.
Ah, ces méchants qui sont en fait des gentils, qui veulent en fait être des méchants, mais qui en fait sont des gentils. Tandis que les responsables administratifs sont en fait des méchants très méchants. Et du coup, la section XXX finit interdite. Oui, je spoil. Mais peut-on parler de spoil quand on parle d'un film bof, hyper incohérent ? N'importe qui d'à peu près conscient, lorsqu'il se soit dans le siège du spectateur de cinéma, le notera. Film bof hypocrite et proche du navet intersidéral. Bref, la section finit interdite, mais Vin et sa nouvelle famille de second rôle clichés sont prêts à reprendre du service. Cliché au service du nombre d'entrées au Cinoche. Ruby Rose représente la communauté LGBT. Donnie Yen doit attirer les spectateurs asiatiques. Et Deepika Padukone, célèbre actrice de Bollywood, est censée attirer le public indien. D'ailleurs, le personnage de Ruby Rose la charmera. Et celle-ci sera plutôt réceptive. Sauf que c'est pas possible. Bah oui, faut rester un peu conservateur. L'Inde est notamment aussi un pays conservateur. Et du coup, ben, on reste conservateur. Et surtout noble seigneur. Donc c'est Vin qui se la tape. Et Donnie Yen alors. Et Donnie Yen, dont l'action est mieux découpée, plus claire. Oui, oui, oui. Donnie Yen a beau avoir 53 ans, il assure ses cascades, le con. Ah, ah bah, il est doué. Donc on peut le filmer sans devoir cutter, essayer de planquer le fait qu'un cascadeur prendrait la relève de l'acteur. Et bah oui.
Et lui, il s'embrasse pas les biceps.
Non. Non. Et le bonhomme à la brillante morale, donc Vin Diesel, veut lancer une suite à ce projet, bien sûr.
Bien sûr.
Et j'ai deux mots à lui dire très très fort.
Je suis pas sûr qu'il va t'écouter, mais vas-y, tente toujours.
Si tu m'écoutes, Vin Diesel, deux mots, non merci. Après, alors oui, c'est tout simple. Alors, pas de musique. Alors, aujourd'hui, pas de musique qui a un rapport avec ce film dégueulasse, ni une bande-annonce dégueulasse. Mais une chanson de Charlotte Jones qui nous a malheureusement quitté le 18 novembre 2016. Eh oui.
Excusez-nous, c'est pas drôle pour Sharon Jones, mais je m'attendais juste pas à ça. En fait.
Donc, This Land Is Your Land de Sharon Jones and the Dapkins de 2005.
This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulfstream waters. I tell you. For you and me. As I went walking down that ribbon of a highway, I saw the
Merci Benjamin pour ce son, c'était vraiment... Excusez-moi. Non, c'est parce que si seulement vous étiez en studio auditeur, vous comprendrez pourquoi on est mort de rire, mais c'est pas grand-chose.
Benjamin n'a pas compris qu'il n'avait pas besoin de crier pour pouvoir nous parler quand voilà. Il est sur les oreilles. En
fait. C'est Benjamin qui m'arrive, qui gueule, qui me fait "Eh bien ce son." Je fais "Ouais ouais." Puis il met son casque, puis moyen, puis il gueule et parce qu'il s'entend pas, il fait "C'est triste." Hein. Voilà, c'était la pause humour. Voilà.
Ouais.
Du coup, merci Benjamin pour cette chronique très intéressante, avec une palette de personnages complètement hallucinante. Merci Vin Diesel, du coup, parce que si Vin Diesel n'était pas là, nous n'aurions pas eu cette chronique. J'espère qu'il s'embrassera les biceps en les écoutant. Et maintenant, on va passer à Ange. Alors, je ne vais pas dire le nom du film, mais je dirais juste une chose. Come on, Ange! Yeah!
Alors, attention, petite devinette avant de commencer. Donc, nous sommes coéquipiers, mais sans vraiment l'avoir décidé. Nous avons des méthodes de travail totalement différentes. L'un est irresponsable, l'autre l'est un peu moins.
Je sais, c'est nous mes testicules!
Bridges?
Non. Nous sommes flics et nous Last sommes guys. Tous deux d'origine différente. Nous sommes.
C'est Bridges? C'est la série avec, vous savez, l'américain, puis qui est une personne d'origine asiatique? Alors là j'ai tout foutu en l'air.
Ah ouais. Non, pas du tout. Tu vois, je pensais que vous alliez me proposer l'arme fatale.
Non,
ou
on
avait
pas
autre
envie.
Chose avec un mec irresponsable.
Attends.
On connaît déjà la
attends,
solution.
Attends. Ce que tu viens de dire, c'est forcément raciste.
De quoi?
Parce que le noir dans l'arme fatale. Ok, il est noir. Mais il est américain.
Oui, c'est vrai.
Alors toi, tu t'arrêtes à la couleur de peau des gens. Alors pour quelqu'un qui est un peu typé, je trouve ça vachement déplacé.
C'est
tu
pas
vois.
Vrai. Ça va aller. Pour qui je passe maintenant? Mais non, en tout cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ce film-là. Il s'agit des agents Carter et Lee, interprétés par Chris Tucker et Jackie Chan dans le film Rush Hour.
Comment, Lee? Carter!
Oh, merde.
Lee! Carter! Lee! Carter! Lee!
S'il vous plaît,
est-ce que
s'il
tu
vous
entends les mots qui sortent de ma bouche?
J'en ai marre, je veux partir. Donc oui, certes, ils sont dans la trilogie entière. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai que du premier.
Bah t'inquiète pas,
on
parce
arrête
que...
avec les Carter et les Lee maintenant.
Non mais t'inquiète pas, le bambou c'est très solide dans notre pays.
Oui. Mais il n'y en a pas dans le premier de façon de bambou.
Non, c'est dans le deuxième mais...
Donc nous avons eu un grand nombre de duos policiers prêts à tout pour affronter le crime. Souvenons-nous de Starsky et Hutch, de L'Arme Fatale, des Bad Boys, de 21 Jump Street, de Holmes et Watson. Mais il y a une chose que ces duos n'avaient
puis
pas.
Et puis Nice Guys aussi, et puis
les flics de San
oui, mais j'allais pas tous les citer non plus. Sinon, il y avait une liste énormément longue.
Bon, tant pis. Hein.
Mais oui, Nice Guys, ok, si tu veux le citer.
Zootopia aussi, c'est
et
un...
les flics de San Francisco.
Ouais, oui, Zootopia aussi, c'est un body movie. Hein.
Oui, aussi, tout à fait. Mais bon, Zootopia, on en parlera pas. Oui. Donc, tous n'avaient pas le truc vraiment spécifique à Carter et Lee. Le déhanché farfelu. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Donc je ne m'attarderai pas sur l'histoire qui est des plus communes. Hein. Les agents Lee, agent à Hong Kong, se rend aux États-Unis pour sauver la fille kidnappée de son ami le consul. Pour l'écarter de l'affaire, le FBI lui envoie comme nounou l'agent de police Carter, sauf que bien sûr, il l'en rapprochera plus qu'il ne l'écartera. Donc ce que je trouve très beau dans ce duo est le fait que le personnage de Chris Tucker est un loup solitaire. Il tentera maintes et maintes fois de gérer seul un conflit tout en disant à Jackie Chan de rester à l'écart, et pourtant Jackie finira toujours par lui sauver la mise. Dans ce film, il n'y a pas à proprement parler de travail d'équipe. Ils font leur petite tambouille, chacun dans leur coin, et se retrouvent toujours ensemble pour en voir le résultat. Donc la complicité n'existe chez eux uniquement que quand ils ne sont pas directement sur l'affaire. Donc c'est-à-dire pendant les moments de pause, pendant qu'ils sont en train de bouffer, pendant qu'ils sont dans leur voiture, en train de faire de la route. Enfin voilà. C'est une rencontre en fait entre deux univers totalement différents. Le côté droit et plein d'honneur et de sagesse de la Chine face à l'individualisme américain qui dit que tant que le résultat est bon, on peut faire péter autant de bâtiments que l'on veut. Qu'est-ce qui se passe?
Le pire, c'est que ça résume assez bien l'idée du film.
Mais c'est que ça dans le film. Hein.
Quand tu regardes bien, c'est vrai.
Il ne se passe que ça. Donc c'est en tout cas ce qui rend ce duo tellement attachant. On sait qu'ils ne pourront rien faire sans l'autre, même si des fois on peut se demander si Jackie Chan n'y arriverait pas mieux tout seul.
Non,
mais tout comme dans L'Arme Fatale, ils se complètent.
Non, il a besoin de Tucker.
Mais ils ont besoin l'un de l'autre.
De Carter.
Oui, tout à fait. Parce qu'à des moments, quand même, c'est Carter qui lui sauve la mise, même s'il le fout dans la merde à certains moments. Même dans beaucoup de moments. Carter, c'est le type même du connard qui veut absolument travailler seul et qui peu importe ce qu'il ferait, il pensera que ses idées sont bonnes, même s'il se fait tabasser au final. C'est ça qui est superbe.
À la base, c'est un genre de flic ringard qu'ils mettent là-dessus parce qu'ils savent qu'il n'y arrivera pas.
Bah oui, voilà.
Ouais, c'est ça.
À la base, ils veulent foutre le. Ils disent qu'ils vont foutre le plus nul d'agent des FBI. Et au final, ils se disent, mais pour foutre la honte au FBI, on va pas le faire. On va prendre un flic de New York comme ça dans la volée. D'ailleurs, il a failli se faire virer juste avant d'être agent du FBI, mais il est recruté, il sait même pas encore sa mission, qu'il se la pète énormément d'être dans le FBI, et pourtant il doit juste écarter le plus possible Jackie Chan du consulat. Donc voilà, ils sont de plus portés par une bande-son variée et totalement plaisante, avec laquelle ils s'amusent beaucoup d'ailleurs. Et bien sûr, le rythme ne va pas sans une bonne tranche d'action mêlant arts martiaux et fusillades, avec le style bien connu de Jackie Chan qui se bat avec son environnement et se fait très souvent botter le cul. Qu'il se batte avec des queues de billard ou avec des vases historiques dans les mains. Il se fait d'ailleurs très souvent réellement mal sur les tournages.
Ah oui.
Donc qu'est-ce que sa souffrance est réelle à l'écran ? Ça, nul ne le sait. Mais il continue de jouer, et cela fonctionne parfaitement avec son personnage.
A noter que le bon vieux Jackie a quand même 70 ans.
Oui, maintenant, et il continue, je crois, de faire quelques trucs.
Il y a un film qui est sorti récemment sur Netflix, qui s'appelle Filature, avec Johnny Knoxville, et c'est le dernier film qui est sorti. C'est pas brillant, hein.
Non, mais bon, après...
Ça reprend Rush Hour. En fait.
Ouais, ça reprend Rush Hour. Après, le côté positif du film, c'est les scènes de combat avec Jackie Chan.
Bah, en même temps, ce que j'aime bien avec Jackie Chan, c'est la différence totale qu'il y a entre lui, parce qu'il y a quand même deux grands maîtres, enfin on va dire trois, même s'il y en a un qui est mort, pour les arts martiaux, c'est quand même Jet Li référence, Bruce Lee et Jackie Chan. Les références des arts martiaux.
Et Donnie Yen.
Non, mais les plus connus, je parle.
Oui, bien sûr.
Les plus connus. Et à chaque fois, Bruce Lee, Jet Li, Donnie Yen, c'est des trucs vachement bien chorégraphiés et t'as l'impression qu'en fait, dans tous les cas, ils arriveront à foutre leur coup, même s'ils peuvent se prendre une bonne claque au bout d'un moment. Tandis que Jackie Chan, dès le début du combat, tu vois qu'il est dans la merde et il essaye de il est souvent très surchargé par les assaillants.
C'est le côté un peu plus réaliste burlesque, voilà. On va dire, parce que la réalité c'est que bon, tu peux mettre n'importe quel expert en arts martiaux devant 15 gars, il y a peu de chances qu'il gagne. Enfin, moi je pense pas que même si t'es très bon en arts martiaux, tu puisses battre 15 mecs en même temps. Mais du coup, ce qui est marrant avec Jackie Chan, c'est que c'est un mélange de hasard, parce que bah il tombe, il se rattrape sur une table, du coup il se sert de la table.
C'est du cirque aussi.
C'est du cirque. Voilà. Tu pourrais reprendre du Chaplin ou un truc dans ce genre là-dessus. Ouais, c'est exactement ça.
Du coup, il y a ce côté burlesque qui ressort et qui bizarrement rend les combats, moi je trouve, beaucoup plus réalistes.
C'est beaucoup plus intéressant et plus, ça rend vivant et drôle en fait en même temps, parce que tu te rends compte de ce qu'il fait, c'est impressionnant.
La différence avec Carter, du coup, ça joue aussi là-dessus. Carter, il sait pas très bien se battre.
Bah, il essaye.
Il essaye, mais du coup, parfois ils font des chorégraphies à deux. Genre, il y en a une qui est culte.
Ah oui.
Avec Chan dans le salon de massage.
Ils se font
une
espèce de shake, ouais. Et puis ils font un coup de poing dans le nez.
Ah,
et
voilà, c'est ça.
Il est balèze ce moment de combat dans le restaurant. Et Chris Tucker, tu le vois débarquer là-dedans. Et en fait, tu sais même pas comment il a appris ses mouvements. Il fait au hasard, il arrive à foutre des coups.
Ouais, c'est ça.
Un peu comme t'as l'impression ce que fait des fois Jackie Chan.
Ouais.
C'est ça qui est génial. Et dans la plupart de ses rôles, Jackie Chan, il a ce talent. C'est que même dans des films très sérieux, il garde ce style de combat et ça marche tout le temps.
Ah oui, bien sûr.
Donc même si ça peut paraître drôle dans certains films, au final il reprend la même chose dans un autre film qui sera sérieux, on restera sérieux et on adorera ces combats. Donc,
c'est ça.
J'adore cet acteur.
Moi j'aime beaucoup Jackie Chan aussi.
Il est très bien dans ce qu'il fait, je trouve.
C'est ça.
Mais donc bon, voilà. Si vous ne connaissez pas ce duo farfelu, je vous invite à le rencontrer. Rush Hour est une trilogie, alors profitez-en. Ni trop chinois, ni trop américain. Il y en a pour tous les goûts, avec une bonne dose d'humour et d'action. Donc sur ce, je vous laisse avec la musique War d'Edwin Starr.
Ah, t'as pas mis les Beach Boys?
Pendant que nous... j'adorais
t'as
leur...
T'as pas mis une musique de la
Lochifrine? De quoi?
De la Lochifrine, quand même le compositeur.
Non.
Qui est quand même le compositeur du thème de...
Il a pas mis les Beach Boys?
Là, je voulais mettre War, parce que j'adore le passage quand ils se mettent à chanter ou que Chris Tucker lui apprend à chanter War ou même à danser dessus.
Thousands of others I have. When the sun goes
Who?
Et donc, j'ai l'impression de réentendre Jackie Chan en train de chanter. C'est perturbant.
Merci Ange pour cette jolie chronique.
Oui.
Et nous allons passer à une chronique sur un détective holistique.
C'est ça, ouais. Aujourd'hui, on va parler de comédie, mais également de science-fiction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ovni. Non, Jules. Je déconne.
Non. Non, s'il te plaît.
Je l'attendais. Non, bon, pas un vrai ovni, mais en réalité d'une série. Donc, comme tu disais, Benjamin, une série qui s'appelle Dirk Gently, détective holistique. Alors, je m'arrête deux secondes sur ce mot qui m'était inconnu jusqu'à maintenant. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un détective
holistique?
Qu'est-ce que c'est un détective holistique?
Ah voilà, j'y suis. Alors, un détective holistique. Alors, en fait, holistique vient du mot holisme et en fait, il s'agit d'une théorie qui s'intéresse à son objet comme constituant un tout. Qu'est-ce que ça signifie plus clairement?
Oui.
J'en sais rien. D'accord. Mais ce que je comprends, et ce que j'en ai compris en regardant la série, c'est que tout est lié. La série a été créée par Max Landis, scénariste de Chronicle notamment, d'American Ultra et de Dr. Frankenstein, et s'inspire des romans, enfin, est inspiré directement des romans éponymes de Douglas Adams.
Et c'est pas John Landis?
Non, c'est Max Landis.
Ah bah j'avais lu que c'était John. Mais non, c'est super que ce soit Max.
Ouais, c'est bien.
C'est ton fils.
Oui. Mais oui, c'est Max. Et du coup, Dirk Gently, c'est la rencontre entre lui, ce détective holistique, excentrique, qui est un peu beaucoup décalé, qui est incarné par Samuel Barnett, et Todd Brosman, trentenaire à la vie ratée et groom dans un hôtel. Todd qui va se retrouver, malgré lui, emprêtré dans une affaire criminelle qui semble défier toute logique, les règles de l'espace-temps. Un Todd Brosman qui, malgré son scepticisme et sa lâcheté, deviendra un personnage important de l'intrigue. En plus, celui qui l'interprète n'est nul autre qu'Elijah Wood. Et oui, Elijah Wood, ça c'est beau. D'ailleurs, ce qui rend cette série si sympathique, au-delà de l'enquête qui flotte entre paranormal et failles spatio-temporelles, ce sont ces personnages extrêmement attachants et qui ont chacun à leur manière un petit pet au casque. Alors, pour tout vous avouer, il me paraît difficile de vous faire un speech sur le premier épisode, parce que c'est un joyeux bordel, c'est une énigme, dont même à la fin de la série, on ne semble pas comprendre l'ensemble des rouages, mais pourtant c'est tellement what the fuck que ça en est génial. Par exemple, à l'inverse d'un détective comme Sherlock Holmes, Dirk Gently ne recherche pas d'indices. Pour lui, tout est lié, et c'est l'interconnectivité entre les objets et les gens qui permettent à Dirk de résoudre ses enquêtes. Un peu plus longuement, on va dire, parce qu'il a pas les, il accumule pas les indices, mais il y arrive tout de même. En même temps, lorsqu'on arrive sur une scène de crime, que l'on croise son sosie juste en face de toi, en sortant d'un ascenseur, que l'on arrive devant une chambre dans laquelle a eu lieu le dit crime, et qu'une fois qu'on entre dans cette chambre, on voit des morsures de requin au plafond, des litres d'hémoglobine partout sur le lit, et des brûlures sur le canapé, et ben n'importe qui pourrait prétendre que le héros du jour serait un détective anglais holistique. Vous n'êtes pas d'accord? Non. C'est, moi, ça me paraît logique.
Tout à fait.
Et son assistant qui est un groom complètement paumé. Alors.
Mais en fait, tu nous parles de Spirou.
Non, mais plus sérieusement, je vous conseille, il faut regarder cette série. Parce que dans cette série, en fait, tout semble possible. La série, c'est un mélange de genres et de références. Et ça s'amuse à foutre le bazar dans le tête. Il est difficile de tout saisir. Mais en même temps, comme les personnages semblent. Semblent eux aussi complètement dépassés par les événements, et ben en fait ça accentue le côté comique what the fuck, et qui fait que les personnages, on a toujours l'impression que même si Dirk semble savoir ce qu'il fait, on sait pas où il veut en venir, et c'est aussi ça qui crée cette relation étrange et en même temps très belle entre Todd et Dirk, qui vont vraiment devenir les meilleurs amis du monde envers et contre tout, pour le meilleur et pour le pire. Alors il est difficile de qualifier cette série ou de la classer dans un genre particulier. Ce que je vous conseille, si votre passion c'est de collectionner les séries et de les classer par thème, je vous conseille alors d'ajouter la mention Unknown ou OVNI à votre étagère. Voilà, ce sera tout pour moi.
D'accord.
C'était petite présentation de Dirk Gently que vous pouvez retrouver par exemple sur Netflix, ou je suppose que vous pouvez trouver...
Il y a deux saisons, trois.
Il y a une saison et une deuxième saison qui est en préparation, qui devrait arriver en 2017, certainement dans le courant de juin, un peu comme toutes les séries qu'on attend, un peu comme House of Cards, tout ça.
D'accord.
Voilà, donc
merci
c'était
beaucoup.
Dirk Gently.
Merci beaucoup.
Ah ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, je m'en vais maintenant. Au revoir.
À bientôt.
Et donc c'était la deuxième émission des Décadrés.
Ouais, pour cette rentrée, ouais.
Et on se dit...
Bah attends, vu qu'on a un peu d'avance, j'ai dit vite fait le mot Spirou.
Oui.
J'ai une info là-dessus.
Ils vont
faire le film Spirou.
Oui, ouais.
Avec Luz... Alex Lutz.
Oui.
Le, ah, Pierre Rocket. Attends, du coup, ça va être un film français.
Bah oui, ouais, français. Et puis avec donc, Christian Clavier aussi.
C'est peut-être pas une bonne nouvelle, justement. Mais ils vont faire un film Spirou.
On va se retrouver avec un donc, boulet voilà. Bilbis, quoi.
Donc voilà. Bah, je pense c'était que la bonne ou mauvaise nouvelle de la fin d'émission.
On peut se quitter avec la musique de Rush Hour
Non, plutôt avec notre générique.
Ah, parce que sinon, avec la musique de Rush Hour, on aurait pu tous chanter ensemble.
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps, ça sera trop court. Sinon.
À la prochaine émission, promis.
On le fera. Ah. Allez, on se laisse avec le générique de l'émission quand même pour se faire plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Peux-tu me faire une voix plus claire? Tonight we present a very warm little story called Kill With
Time. On a un peu dans le studio, on laisse soir, on lui met un casque, il parle dans le micro. Si tu fermes ta gueule. Chatois, c'est un peu décalé avec Benjamin, Antoine et Monel 11.
Écoute, ça va arriver les voisins.